Bonjour, vous écoutez L'Amérique dans tous ses états, un balado hebdomadaire consacré à l'actualité des États-Unis, enregistré et diffusé depuis New York. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bérangère Viennot. Bonjour.
Bonjour.
Bérangère Viennot, vous êtes traductrice de presse et chroniqueuse pour le site slate.fr et vous avez publié en janvier aux éditions Les Arènes l'ouvrage La langue de Trump. Dans ce livre, vous racontez avec un certain humour, je dois dire, mais également avec une certaine solennité, le casse-tête qui est le vôtre lorsque vous devez traduire les déclarations, les discours, voire les tweets de l'actuel président américain, un président qui manie un langage en apparence simple, pour ne pas dire simplissime, mais pourtant parfois difficile à restituer en français. Alors au début de l'ouvrage, vous dites « Vous êtes réveillé avec la gueule de bois au lendemain de l'élection de Donald Trump en novembre 2016. » D'abord évidemment parce que sa victoire face à Hillary Clinton a été un séisme politique que très peu d'observateurs avaient vu venir. Mais vous expliquez aussi, à titre personnel, que ça vous a contraint à repenser d'une certaine manière la façon dont vous pratiquez votre métier de traductrice. Concrètement, Bérangère Viennot, qu'est-ce qui a changé pour vous, d'un point de vue professionnel, depuis l'élection de Trump ?
Eh bien, c'était une surprise en effet, et ça n'a pas été facile de mettre tout de suite le doigt sur ce qui était compliqué et sur ce qui était devenu différent. En réalité, j'avais l'habitude de traduire des discours ou des prises de parole de Barack Obama, du prédécesseur de Donald Trump, ou parfois d'autres personnages politiques anglophones, et je ne m'étais jamais posé vraiment la question de la manière de traduire le discours politique. À vrai dire, c'était devenu assez routinier, et ça ne mettait pas en question des théories que j'avais pu appliquer avant pour les avoir apprises à l'école ou sur le tas. Quand Donald Trump a été élu, quand il a été investi, plutôt, avant même son élection, quand il est devenu un personnage public de la vie politique américaine et donc internationale, ça a changé parce que je me suis rendu compte assez vite que si j'appliquais mes méthodes habituelles, c'est-à-dire que si je traduisais simplement ce que j'entendais ou ce que je lisais avec mes réflexes de traductrice ordinaire, c'est-à-dire des réflexes qui consistent à faire passer le message en lissant parfois un petit peu la forme, je n'étais plus du tout fidèle au discours de l'homme politique qui parlait. C'est-à-dire que avec Donald Trump, si on se contente de faire passer le message de son discours politique, on se rend compte qu'on est face à un écueil qui est que ce message d'abord n'est pas clair et que surtout on trahit la personne dans la mesure où la forme chez lui est aussi importante que le fond, voire parfois plus importante que le fond.
Et donc vous expliquez à plusieurs reprises dans cet ouvrage que le contexte est crucial pour comprendre ce que dit Trump, pour traduire ce que dit Trump. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret d'une déclaration ou d'un moment où vous avez dû traduire Trump, où vous avez dû vous référer au contexte pour qu'on comprenne ce que Trump voulait dire ?
Ah oui, l'importance du contexte. Alors ça me fait plaisir que vous en parliez parce que ce n'est pas juste pour Trump. En tant que traducteur, on traduit toujours en faisant référence au contexte, et on ne peut pas bien traduire sans le connaître. Et effectivement, Donald Trump nous a permis à nous les traducteurs de montrer à quel point le contexte était important, parce que justement, et j'en parle dans mon livre, il y a eu des moments de la scène internationale où il a fait des déclarations qui ont été mal traduites parce que justement sorties de leur contexte. Donc celle qui est la plus évidente, c'est sa déclaration qu'il a faite le 14 juillet quand il est venu en France, qu'il a parlé à Madame Macron pour lui dire qu'elle était en « very good shape », c'est-à-dire littéralement en très bonne forme, et qui a été traduit comme ça par la plupart des journalistes francophones, c'est-à-dire le président américain a dit à Madame Macron qu'elle était en forme. Or, ça, c'était traduire sans prendre en effet en compte le contexte. Et le contexte, c'est quoi ? C'est que Donald Trump est d'une part le président des États-Unis, bien sûr, mais aussi un homme que tout le monde connaît pour ses réflexes misogynes, machistes. Et le contexte aussi hors de Trump, c'était aussi à qui il s'adressait, c'est-à-dire à une femme, une belle femme, de plus de 60 ans. Mmh. C'est-à-dire une femme qui, aux yeux d'un homme comme Trump, n'a pas vraiment de valeur, sociale ou sexuelle. C'est-à-dire que comme lui, il s'est plusieurs fois vanté d'aimer les femmes très belles et très jeunes, il était évident qu'étant femme, en face d'une femme de plus de 50 ans, il n'allait pas la trouver sexy. Et quand il s'est adressé à elle en lui disant « you're in very good shape », il voulait dire en fait « mais vous êtes super bien conservée, vous êtes super bonne pour votre âge ». Évidemment, ce n'est pas comme ça que les journalistes l'ont traduit parce qu'on ne peut pas entendre ça dans la bouche d'un président américain. Parce que ça sort tout de suite de la dignité de la fonction et on ne peut pas imaginer une seconde que quelqu'un d'aussi haut placé avec une carrière internationale puisse manquer de respect à une femme. Or, le personnage de Trump est comme ça. Lui, il est hors norme, il a cassé toutes les cases de la politique tant au niveau national qu'international et il n'a pas eu ce jour-là une réflexion d'homme politique et là une réflexion d'homme ordinaire, un peu familier, même carrément grossier, devant une femme dont la beauté l'étonnait malgré son âge. Donc là, c'était important en effet de prendre ce contexte en compte et de ne pas sous-traduire ce qu'il disait, parce que sinon, c'était pas être fidèle à son message, qui n'était pas « vous êtes bien en forme », ce qu'aurait dit un kiné, un médecin ou votre tata, mais « oh là là, vous avez beau être vieille, vous êtes quand même assez jolie ».
Vous parlez justement de ce risque de la sous-traduction. Il y a un autre exemple, une autre marque de fabrique plutôt du langage de Trump, qui est la vulgarité, les invectives qu'il manie de manière extrêmement fréquente. Et dans votre livre, vous parlez d'un moment aussi qui a marqué cette présidence, lorsqu'il a parlé de pays africains en se référant à eux comme de « shithole countries ». Et là, vous dites aussi, le contexte est important et il y a un risque de sous-traduction. Lequel est-il ?
Oui, quand il a parlé de « shithole countries », il parlait en effet des pays africains principalement. Et encore une fois, il faut prendre en compte dans cette phrase-là, dans cette remarque, tout le contexte, c'est-à-dire le fait que ce soit le président américain des États-Unis qui prononce ce mot à propos de ces pays-là spécifiquement, qui ont une histoire intime très liée avec celle de l'Amérique, et aussi le fait que, notoirement, c'est un homme raciste, qui ne le cache pas, enfin, qui a beaucoup de mal à le cacher en tout cas. Et donc, quand lui parle de shithole countries, on entend aussi tout le mépris d'une certaine classe blanche américaine pour des pays plus pauvres, des pays d'Afrique noire, d'où viennent une grande partie de la population états-unienne aujourd'hui. Et tout ce, dans cette expression-là, dans tout ce shithole-là, il y avait ce dédain, ce mépris pour toute cette catégorie de population, qu'on ne pouvait pas vraiment rendre en se contentant de parler de Trouara, par exemple, comme l'ont fait certains médias. Il y avait une vraie vulgarité, une vulgarité dans les mots, mais il y avait aussi une vulgarité dans la pensée. Et c'est important de le restituer, en effet, si on ne veut pas sous-traduire Trump.
Alors, il y a un paradoxe aussi dans le langage trumpien, qui est ce contraste entre la simplicité du langage que j'évoquais au début de notre entretien et la complexité de cette traduction. Vous expliquez que Trump utilise un vocabulaire qui semble être à la portée de tous, qui sont des mots qu'on a souvent appris lors de nos études au collège ou au lycée, mais pourtant, ça peut nous donner une fausse impression parce que ces mots très vagues, souvent vides de sens, sont difficiles justement à traduire de manière précise. Est-ce que vous pouvez un peu étayer cette idée-là ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand on apprend l'anglais, quand on n'est pas anglophone, on commence par les mots bien sûr les plus utiles et les plus simples, et les plus binaires aussi, good, bad, des choses comme ça. Et justement, c'est ce vocabulaire-là que Donald Trump utilise le plus souvent. C'est-à-dire qu'il divise son vocabulaire comme sa pensée, comme sa réflexion et comme souvent sa politique en deux catégories, les bons et les méchants. Or, la politique, c'est une pensée complexe. Et on ne peut pas traduire une pensée complexe avec des mots trop simples. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte, le mot bad peut vouloir signifier mal ou mauvais, mais aussi affreux ou aussi terrible. Par exemple, à un moment, Donald Trump parlait de l'Allemagne, une époque où il y avait un début de guerre commerciale avec l'Allemagne à cause des exportations de voitures. Et il me semble me souvenir qu'il avait qualifié les Allemands de « bad people », ou « terrible people ». Et c'était très vague et c'était compliqué on ne pouvait pas traduire simplement « les Allemands sont méchants ». Ça n'a pas de sens en français. C'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi, remonter déjà à la source de la signification de cette colère, et ensuite mettre un mot en français qui a une nuance qui donne aussi une image et une idée de tout le message. Et le problème avec Donald Trump, c'est que là, un message, il n'y en avait pas tellement. C'est-à-dire qu'un autre homme politique aurait dit « voilà, les Allemands nous posent un problème parce qu'économiquement, ils tirent la couverture à eux et que ça n'arrange pas les affaires de nos industriels ». Mais pour Donald Trump, en fait, c'est juste « bad ». C'est-à-dire qu'on grange dans une catégorie « soit c'est noir, soit c'est blanc », complètement manichéenne. Et en fait, on a l'impression que c'est simple à traduire parce que les mots sont simples, mais dessous, comme la traduction, c'est l'interprétation d'un message, eh bien, extirper le message d'un discours creux, c'est extrêmement compliqué. Et le restituer en français de façon à ce que ça veuille dire quelque chose, ça l'est encore plus.
Alors justement, sur cette idée, pour la poursuivre un peu, il y a aussi le problème des fautes de syntaxe qui sont extrêmement fréquentes lorsque Donald Trump, notamment, prend la plume sur Twitter, si on peut utiliser ce vocabulaire. Quel est, vous, votre politique en la matière? Est-ce que vous pensez qu'il faut restituer ces fautes de syntaxe dans le texte traduit? Ou alors, est-ce qu'il faut lisser, un peu polir, pour que le lecteur puisse comprendre tout simplement de quoi il s'agit?
Alors, l'intérêt pour les traducteurs, l'intérêt de l'accession au pouvoir de Donald Trump, c'est que ça nous a donné l'occasion de beaucoup réfléchir sur notre pratique à ce sujet. C'est-à-dire qu'en principe, un discours politique, quand il y a de temps en temps quelques fautes de syntaxe, de grammaire, que ce soit un tweet ou à l'oral, le traducteur est amené à lisser, puisqu'encore une fois, l'important, c'est le message. En ce qui concerne Donald Trump, en fait, ce n'est pas juste une petite faute de grammaire ou de syntaxe ici et là, c'est carrément devenu une marque de fabrique. C'est même carrément devenu presque un symbole. C'est-à-dire que je pense que dans le fait que Donald Trump s'exprime aussi mal, autant du point de vue de son vocabulaire simplissime que de sa syntaxe qui est hachée et qui ne rime pas à grand-chose, je pense que ça participe aussi de sa popularité. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il le fait exprès ou pas. Parfois, je me pose la question, honnêtement, le doute est permis. Mais le fait qu'il parle très simplement, d'une façon qui peut paraître sincère, franche, et donc, partant, si on tire un peu la ficelle, honnête, paraît, pour toute une frange de la population qui ne s'est jamais sentie représentée par des hommes politiques qui parlaient peut-être trop bien parce qu'avec une langue de bois trop élaborée, eh bien, ça peut paraître plus proche d'eux. Et ces fautes de syntaxe, cette façon de mal parler, ces petits adverbes qui sont mis ici et là alors qu'ils n'ont pas lieu d'être, finalement, on pourrait aussi penser que c'est une sorte de stratégie pour séduire un public qui en a marre d'être dirigé par des élites intellectuelles avec lesquelles elle ne se sent aucune affinité. Et là, il y a par exemple Theresa May a annoncé sa démission et Donald Trump a réagi et il a dit I feel badly for Theresa. Et c'est pas du bon anglais. Normalement, on dit I feel bad. Alors, c'est une faute qui est courante, que beaucoup d'anglophones font, donc ça devient de moins en moins une faute, vous voyez, c'est une familiarité. Mais même si, je ne sais pas si c'est un hasard, s'il l'a fait exprès ou pas, mais ce qui est certain, c'est qu'une certaine catégorie de population va se reconnaître dans ce genre d'expression.
Et ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre, ce qui je trouvais très intéressant, c'est que la richesse du vocabulaire de Trump s'est dégradée au fil des années. Si on regarde des interviews de lui dans les années 70 ou 80 ou même avant, on se rend compte qu'il s'exprimait de façon bien plus éloquente auparavant.
Oui, j'ai regardé quelques interviews de lui dans les années 80-90 et en effet, il semblait avoir beaucoup plus de vocabulaire. Et alors, c'était pas non plus un grand orateur, hein, mais il avait moins de difficultés. Il semblait moins en prise avec ses émotions et il se laissait sans doute moins aller, je pense, à la colère et peut-être à la peur de ce qu'il attend. En tout cas, ça se manifestait par une plus grande facilité d'élocution et même un certain charisme.
Pour expliquer cette dégradation, alors vous aventurez dans un de vos chapitres sur un terrain qui pourrait être un peu glissant, qui est celui de la santé mentale de Donald Trump. Vous racontez que vous-même, vous avez un fils atteint de dyslexie et que vous éprouvez parfois le sentiment que chez Donald Trump, il y a certaines des difficultés de lecture que l'on peut retrouver chez une personne dyslexique. Est-ce que vous pouvez un peu étayer ce raisonnement? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Comment vous avez eu ce sentiment-là?
Oui, alors la dyslexie, en réalité, c'est un problème cognitif qui n'a pas forcément un rapport avec la santé mentale, mais c'est un problème, comment dirais-je, d'instrument. En effet, comme je suis confrontée à ça, à ce problème-là tous les jours, j'ai un peu des antennes pour les repérer. Et en travaillant sur les discours de Donald Trump, en l'écoutant parler et surtout en le regardant lire, je me suis rendu compte qu'il avait développé des mécanismes de compensation que je connaissais bien pour les avoir déjà vus chez d'autres personnes. Par exemple, bien, éviter de lire, par exemple, ou compenser par un certain bagou, par le fait de développer des conversations qui se détournent du sens d'origine, parce que au départ, c'était basé sur un texte écrit et qu'on voit il est embarrassé. Alors, ça se traduit, par exemple, quand il doit lire des discours sur un prompteur, à quelques exceptions près où on sent qu'il fait vraiment des gros efforts de concentration. La plupart du temps, il commence un petit peu à lire sur le prompteur, il se plante une fois ou deux, il fait comme s'il s'était pas planté, et ensuite, petit à petit, il change de sujet, et là, on sent qu'il a lâché le discours écrit. Parce que tout simplement, enfin, je suppose, il avait trop de difficultés à le lire de façon fluide et de façon à ordonner sa pensée. La plupart des gens dyslexiques, quand ils ont un certain niveau de dyslexie, ont du mal, s'ils le lisent, en même temps, à ordonner la pensée pour ce qu'ils vont dire après. Ce qui fait qu'ils préfèrent soit lire tout et rester vraiment au pied de la lettre, et Donald Trump apparemment n'aime pas du tout ça, soit carrément partir en improvisation. Et souvent, ils sont très bons en improvisation d'ailleurs, parce que c'est un mécanisme de compensation de la lecture. Et le problème de Donald Trump, c'est qu'en improvisation, il est parfois très bon, mais il tourne souvent en rond, c'est-à-dire que comme il n'y a pas toujours du fond dans ce qu'il veut dire, ce qu'il n'est pas exactement au fait de ses dossiers, il y a forcément un moment où il va revenir sur le sujet qui lui est le plus familier et qui connaît le mieux, c'est-à-dire lui. Enfin, en ce moment, ça change un petit peu parce qu'en fonction de l'actualité, c'est vrai que là, il est mis en danger avec tout ce qui se passe en ce moment à Washington, le fait qu'on lui demande ses déclarations d'impôts et que Nancy Pelosi s'énerve contre lui en lui disant qu'il essaye d'étouffer certaines affaires. Donc là, ça se déplace un petit peu, mais ça reste quand même toujours les moments où il est le meilleur, c'est quand même les moments où il parle de lui en totale improvisation, quoi. S'il doit lire quelque chose, un discours écrit sur une politique particulière, très vite il perd le fil, il n'arrive pas à suivre.
Et lorsqu'il improvise, il fait aussi preuve d'un certain sens de l'humour dont vous parlez dans votre ouvrage. Humour que vous qualifiez de bête et méchant, qui est l'humour souvent fait pour blesser ou pour dénigrer. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a encore plus intéressé dans ce rapport que Donald Trump a à l'humour et dont je ne m'étais pas vraiment rendu compte avant de lire votre ouvrage, c'est qu'on ne voit quasiment, pour ne pas dire jamais, Trump rire. Alors, est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui, tout simplement, n'a pas accès à cette fonction cognitive ou c'est une stratégie de sa part de ne jamais rire en public?
Je pense que Donald Trump est évidemment capable de rire comme tout le monde. Il ne rit sans doute pas des mêmes choses que vous et moi. En effet, il a quand même tendance à faire des attaques ad hominem et à attaquer personnellement les gens et à trouver ça drôle. Mais je pense surtout que c'est quelqu'un qui se prend beaucoup au sérieux. C'est sûrement un de ses plus gros défauts. Et pour ce genre de personnes, c'est difficile de détecter l'humour. Et puis aussi, vous savez, pour faire preuve d'humour et pour rire, il faut aussi une certaine dose d'empathie. Réussir à se mettre aussi à la place de l'autre et accepter que l'autre se mette à sa place. Et en effet, je ne suis pas sûre que ce soit des capacités qui soient très développées chez Donald Trump. Mais pour ça, je pense qu'il faudrait qu'il passe un bilan neuropsy. Et je ne suis pas du tout capable de le dire. Ce n'est pas mon métier. En plus, à distance, encore moins.
Et je ne suis pas sûre que lui-même ait forcément envie de s'y plier. Il y a une dizaine d'années, en France, il y avait un petit ouvrage, un essai d'Alain Badiou qui avait eu un très grand succès, qui s'appelait « De quoi Sarkozy est-il le nom ?» Alors, j'ai envie de vous poser la question en reprenant le titre de ce livre. De quoi la langue de Trump est-elle le nom? En clair, que dit-elle sur l'état de la société américaine contemporaine?
La langue de Trump, pour moi, c'est un symptôme. C'est-à-dire que je ne crois pas que Donald Trump soit un accident de l'histoire. Je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que c'est plutôt Barack Obama qui l'a été. Quand Barack Obama a été élu, beaucoup de progressistes, beaucoup d'occidentaux se sont dit « on avance ». On va vers plus d'humanisme, plus d'humanité peut-être, on va vers plus de tolérance. Et quand Donald Trump a été élu, on s'est dit, voilà, un hoquet de l'histoire, un accident, et ça ne se reproduira pas sans doute une fois que Donald Trump sera parti, on sera débarrassé. Alors je pense que la langue de Donald Trump, c'est justement le symptôme de tout le contraire. C'est-à-dire que Donald Trump, il est en train de nous signaler, par sa façon si simple de passer des messages si haineux et de diviser la population américaine, il est en train de nous annoncer, je pense, une époque où la simplification de la pensée va mener vers la simplification du langage et du discours, qui est la voie la plus sûre vers la violence, et vers la violence sociale. Et je pense que c'est de ça dont elle est le symptôme. Donc c'est vrai que j'ai écrit un livre qui se veut léger parce que mon style est léger, mais, et parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il vaut toujours mieux en rire. Mais je pense sérieusement ce que j'écris quand je dis qu'il faut aussi savoir écouter les gens qui écoutent, eux, la langue de Trump. Parce que ce sont eux qui l'ont élu et que quand Trump sera parti, quand Trump aura quitté la Maison-Blanche, que ce soit en 2020 ou en 2024, eh bien ses électeurs, ceux qui l'ont porté, ceux qui le soutiennent toujours encore aujourd'hui, malgré tout, toute la xénophobie, le racisme et la haine dont il peut faire preuve, eux seront toujours là. Ils auront toujours le droit de vote et ce sera toujours une frange très importante et très conséquente de la population américaine. Je pense que la langue de Donald Trump, c'est la langue de ces personnes-là et qu'on aurait bien tort de croire qu'elle va mourir quand Donald Trump va partir et va quitter la Maison-Blanche.
Très bien. Bien, c'est sur ce constat pessimiste, mais à la fois extrêmement réaliste de votre part qu'on va conclure cet entretien. Bérangère Viano, merci beaucoup.
Merci.
Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de notre balado. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou sur Spotify, de nous laisser une note ou un commentaire. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.